Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Comme tous les jours à cette heure-ci, Franck Ferrand s'apprête à nous entraîner sur les traces d'un grand personnage du passé. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Un grand personnage, certes un grand découvreur en vérité, qui aura offert à l'humanité la restitution de tout un pan de sa mémoire, en l'occurrence celle de l'Égypte antique.
Ce découvreur s'appelait Jean-François Champollion.
Oui, et si nous connaissons si bien de nos jours la vie d'Hatchepsout, d'Akhenaton et de Ramsès II, c'est d'abord grâce à lui. Le célèbre ouvrage de Christian Jacques, Champollion l'Égyptien, ressort en ce moment dans une édition revue et augmentée. Eh bien, Christian Jacques est avec nous dans ce studio, ainsi que Florence Gombert, qui est conservateur au département des antiquités égyptiennes du Louvre.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Aujourd'hui, cela nous paraît évident. L'Égypte antique est devenue familière à presque tout le monde. Et si les touristes s'y précipitent moins que naguère, c'est pour des raisons politiques évidentes. Les événements de ces derniers jours nous rappellent l'instabilité actuelle du pays des pharaons. N'empêche que ce pays, nous le connaissons bien. La civilisation du Nil est enseignée dès le collège. Néfertiti et Cléopâtre sont des superstars de l'histoire. Et les plus gros tirages de l'édition sont pour des romans historiques qui ont pour cadre Karnak et Louxor et la Vallée des Rois. Eh bien, dites-vous que tout cela, c'est d'abord à un homme, à un Français, que nous le devons, Jean-François Champollion. Avant lui, pendant des siècles interminables, l'Égypte n'avait été qu'un champ de ruines géantes, peuplé de signes muets et, comme tout ce qui est muet, quasiment absurde. On connaissait les sites, évidemment, on admirait les temples et les pyramides, mais on n'avait que peu d'idées de la civilisation qui les avait édifiés. On regardait avec des yeux ronds ces kilomètres de parois sculptées d'hiéroglyphes, en creux sur les murs extérieurs, en relief sur les murs intérieurs, et l'on n'avait pas la moindre idée de ce que ces archives de pierre avaient à nous dire. Naturellement, le défi était dans l'air et les tentatives de déchiffrement étaient nombreuses. De ce point de vue, Champollion est l'enfant de son temps. Seulement avant lui, les savants avaient fait chou blanc. Pour réussir là où tout le monde avait échoué, il allait falloir une invraisemblable conjonction de circonstances. D'abord, il faut rappeler que Jean-François est né en 1790, c'est-à-dire qu'il a tout juste 10 ans au moment où l'expédition militaire, mais aussi et surtout scientifique et artistique, conduite en Égypte par Bonaparte, rentre à Paris. 175 lettrés civils sont de retour avec dans leur bagage des trésors fabuleux. Le dessinateur de l'expédition n'est autre que Vivant de Nom, dont les sublimes planches seront publiées à grands frais un peu plus tard dans la célèbre description d'Égypte. Naturellement, Champollion ne va pas être le dernier à découvrir tout cela. Surtout, en août 1799, à 70 km environ d'Alexandrie, dans le delta du Nil, les militaires français ont découvert, par hasard naturellement, la clé du déchiffrement des hiéroglyphes. Il s'agit d'une tablette de granit noir d'un mètre sur 75 centimètres qui a été trouvée à Rosette exactement lors des travaux de renforcement d'un vieux fort turc. Sur ce morceau de granit poli sont gravés trois textes. L'un en hiéroglyphe. Bon, alors là, c'est toujours aussi abscon pour le moment. Un deuxième en démotique, c'est-à-dire en égyptien vulgaire, si je puis dire. Et puis le troisième en grec. Et là, hourra, c'est la voie qui s'ouvre vers un possible déchiffrement. Deux jours après cette découverte essentielle, Bonaparte s'est rembarqué pour Paris, vous savez. Il a laissé les Anglais invaincus, de sorte que la pierre de Rosette va tomber bientôt entre les mains du major général Turner, qu'il l'enverra à Londres, au British Museum, où elle est toujours. Oh, ce n'est pas si grave, les Français ont eu le temps d'en prendre copie, et c'est sur ces copies que travailleront les candidats au déchiffrement. Le ministre de l'Intérieur, Chaptal, qui s'occupe aussi des Beaux-Arts, confie d'abord les copies de la pierre de Rosette au plus prestigieux orientaliste de l'époque, Sylvestre de Sacy. Celui-ci établit d'abord une traduction précise de l'inscription du bas, ça c'est pas trop compliqué, c'est écrit en grec. Et puis, montant d'un palier, on va dire, vers le texte en démotique, Sylvestre de Sacy parvient tout de même à isoler un certain nombre de phonèmes, à repérer quelques noms propres, mais disons-le, il ne va pas tellement plus loin. Et malgré la collaboration du savant suédois Åkerblad, il bute sur l'aspect idéographique des symboles égyptiens. Pour aller plus loin, il faudrait peut-être lire et parler couramment, j'allais dire depuis l'enfance, les langues anciennes de la région. Eh bien, précisément, au même moment, un garçon de 11 ans réunit ces conditions. Il a suivi son grand frère venu travailler à Grenoble en provenance de Figeac dans le Lot, où leur père tient une librairie. Ce grand frère, il s'appelle Jacques Joseph, ajoute Figeac à son nom. On peut dire que c'est ce qui va désormais nous permettre de le distinguer. Il est très fier du petit Jean-François qui est, oh, n'ayons pas peur des mots, qui est ce que nous appellerions un surdoué.
Mizmar Baladi avec Yaffa Arout.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous sommes au cœur de l'histoire de Champollion l'Égyptien avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Christian Jacques, égyptologue et romancier, et Florence Gombert, conservatrice au département des Antiquités égyptiennes au musée du Louvre.
Bonjour à tous les deux et merci d'être venus nous parler de Champollion. Christian Jacques, au moment où vous avez écrit Champollion l'Égyptien, c'était il y a presque 25 ans déjà.
Oui,
c'est on ne parlait pas tellement de Champollion.
Ben écoutez, non. En réalité, il était cité évidemment dans les dictionnaires, bon, inventeur des hiéroglyphes, et moi-même d'ailleurs, je travaillais au Collège de France à cette époque-là, et bon, avec les camarades, dire on va regarder Champollion, c'était un peu aller s'occuper des dinosaures de l'égyptologie, c'était sans grand intérêt. Et puis il s'est trouvé qu'un jour, j'avais besoin d'un petit renseignement sur le temple d'Abou Simbel, vous savez, ce fameux temple nubien qui a été démonté.
Colossal temple de Ramsès. Ouais, hein.
Où d'ailleurs Champollion a vécu des heures inoubliables. Et puis, je me dis, je vais aller voir chez Champollion, parce que peut-être qu'il a dessiné quelque chose. Et en effet, non seulement il avait dessiné quelque chose, mais il avait beaucoup écrit. Et là, j'étais complètement stupéfait, parce que je suis tombé sur ses récits de voyage, sur ses lettres, et au-delà de l'égyptologue, de l'archéologue, j'ai découvert un homme incroyable.
Ah oui,
parce qu'il se confie aussi entre ses expériences scientifiques. Et puis ce voyage, c'est unique. Voyage, puisqu'il n'a été que vers la fin de sa vie, d'ailleurs.
Une vie très courte, hein, il a vécu 41 ans. Donc...
41 ans, ouais. C'est épouvantable, c'est très très peu. Et le travail qu'il a pu faire en si peu de temps, c'est incroyable.
Alors,
et là, c'est parti.
La trace de Champollion, il faut aller la chercher. Moi, je me rappelle, étant adolescent, me promenant dans ce qui était l'ancien Louvre, hein, pas encore le Louvre revu et corrigé avec le nouveau département d'égyptologie de la fin des années 80. Quand on se promenait dans cet ancien Louvre, la figure de Champollion, quand même était mentionnée, elle existait, si je puis dire, elle fait partie, on peut dire qu'il est un peu votre père tutélaire, Florence Gombert.
Oui, je crois que tous les conservateurs du département des Antiquités égyptiennes admirent le travail de Jean-François Champollion et le saluent encore sur sa vision très moderne de la muséologie et de son sens de la pédagogie dont nous sommes encore les héritiers aujourd'hui.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que non seulement il avait une vision claire des choses, mais il savait la faire partager aux autres. Ça, c'est un véritable don. Alors, puisqu'on parle de don, il faut dire qu'il est né béni des dieux, hein, ce petit Champollion, Christian Jacques.
Ouais, c'est curieux parce qu'il naît dans une région magnifique d'ailleurs, hein, Figeac, dans le Lot. Bon, c'est pas le centre culturel majeur. Hein. Bon, son père.
Surtout, on est à la toute fin du XVIIIe siècle,
absolument.
En pleine révolution. Hein.
Alors, absolument. Et bon, son père était en effet, était colporteur. Et puis, il est devenu libraire. Il a colporté des livres. Et puis, un jour, il s'est installé comme libraire. Et on a écrit que sa mère était quasiment illettrée. Donc vous voyez que c'est pas le départ est pas simple. Mais alors ce gamin, oui, vous avez employé tout à l'heure le mot de surdoué.
Oui,
alors ça, je crois qu'on peut vraiment le dire, parce que non seulement il a appris à lire et à écrire le plus vite qu'il a pu, puisque c'était sa passion, ses livres. C'est vrai que Jacques Joseph, le grand frère, a joué un rôle très important, parce que lui aussi a été un érudit, un savant, un professeur. Mais alors, ce qui est fascinant, c'est pourquoi ce gamin, dès l'âge de 15 ans, j'ai noté la phrase parce que je ne veux pas la trahir, à 15 ans il dit « Je veux consacrer ma vie à la connaissance de l'Antique Égypte ». Alors ça, d'où ça sort, c'est quand même absolument incroyable.
Une forme presque de prédestination. Du reste, une voyante avait dit, hein, quand il était petit, on retrouve toujours ça sur les grands personnages, presque toujours. Il y a des gens qui font des prédictions.
Oui, alors celui-là, il m'intéresse beaucoup parce que figurez-vous que celui qui a annoncé que Champollion serait la lumière pour les siècles à venir s'appelait Jacou le magicien.
Bon, alors, ça ne s'invente pas.
En écrivant, ça ne s'invente pas. Donc en écrivant ce roman pour un peu ressusciter sa figure, vous voyez, les choses se prolongent. Et alors donc ce gamin... Ce qui est fou, c'est bon, il apprend le latin et le grec, vous me direz, ça c'est banal. Mais alors, le syriaque, l'araméen, et puis alors après, effectivement, vous avez parlé du copte, ce qui va être très important sur le chemin de la connaissance des hiéroglyphes. Il apprend tout ça.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il vit, il est baigné de ces langues très anciennes, en vérité. C'est peut-être la première clé pour comprendre cette découverte inouïe qu'il va faire. C'est qu'il est pénétré de tout ça, en fait. Il a les sonorités à l'esprit, en quelque sorte.
Jean-François Champollion est profondément original dans sa pensée.
C'est ça, hein.
C'est-à-dire que sa formation effectivement était classique à l'époque, comme vous le dites, le grec et le latin. D'ailleurs, il n'en avait pas la passion, il faut le dire aussi. Et très vite, très tôt, il s'oriente vers les langues orientales. Et c'est parce que justement, il a une précocité dans cette intuition-là et qu'il a un goût très affirmé des langues orientales, qu'il va avoir des intuitions ensuite géniales qui lui permettront de traduire effectivement.
Où est-ce qu'il étudie?
Alors, il va étudier d'abord à Grenoble. Hein. Bon, vous le savez sans doute, il avait une éducation assez relâchée jusqu'à l'âge
Grenoble,
de 10 ans.
Parce qu'il a suivi donc ce frère qu'il adore, hein, c'est ça?
Voilà, à Figeac, il avait une relation, une éducation assez relâchée qui lui occasionnait beaucoup de lacunes, apparemment. Il avait du mal à se concentrer, comme beaucoup d'élèves surdoués aujourd'hui, paraît-il. Donc finalement, on n'en est pas si étonné. Et puis donc à 11 ans, effectivement, son grand frère, de 12 ans son aîné, finalement que 12 ans son aîné, le fait venir à Grenoble. Son frère le dira plus tard, j'ai été tour à tour son père, son maître, puis son élève. Et effectivement, là, il est son père. Et c'est grâce à l'admiration qu'il avait pour son frère que Jean-François Champollion va certainement se passionner pour l'Orient et les langues orientales, puisque son frère lui-même était déjà intéressé par le sujet.
Alors, ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'à cette époque, la question du déchiffrement des hiéroglyphes était l'une des grandes énigmes des sociétés savantes. Hein. C'était vraiment l'un des grands défis posés aux linguistes et aux philologues. Et bien entendu, Champollion n'arrive pas tout à fait dans un désert. Hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas seul à s'intéresser à la question. La différence, c'est que lui, il va trouver la solution au problème. Nous y venons dans un instant.
Europe 1. Cahier de vacances, cours d'été, révisé pendant les vacances est un plaisir pour les uns, une corvée pour les autres. Et vous, pour ou contre? Pour tout savoir sur les révisions estivales, rendez-vous avec Elena et ses experts dès 14h.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de Champollion l'Égyptien, avec vous Franck Ferrand et vos invités.
Florence Gombert, conservateur au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Le musée du Louvre, avec les éditions Khéops, vient de publier la notice descriptive des monuments égyptiens du musée Charles X. Alors, on va en parler tout à l'heure de ce musée Charles X, bien entendu. Cette édition qui a été établie par Sylvie Guichard est une sorte, en quelque sorte, de mise à disposition du public d'aujourd'hui des travaux, d'un guide qui n'existait plus, qui était devenu quasiment introuvable.
Qui était peut-être introuvable en dehors des bibliothèques, mais surtout impossible à déchiffrer, lui aussi, puisque Sylvie Guichard, donc ingénieure de recherche au département des antiquités égyptiennes, a pu retrouver les œuvres en rapport avec la description des monuments égyptiens du musée Charles X que Jean-François Champollion avait rédigé en guise de guide du visiteur. Et donc, si l'on est intéressé, on peut faire une visite du département des antiquités égyptiennes tel qu'il avait été aménagé par Jean-François Champollion.
Exactement, et avec Champollion lui-même pour guide. Alors, on n'en est pas là, évidemment. Il y a de très grandes étapes à franchir avant que n'existe ce musée Charles X et que Champollion en soit le maître. Il faut bien entendu que Champollion s'impose. Alors, je disais avant l'interruption, Christian Jacques, que cette idée d'un déchiffrement des hiéroglyphes était quand même dans l'air et qu'un certain nombre de savants se penchaient sur la question à l'époque.
Écoutez, je crois que ça aurait été aujourd'hui, on en aurait parlé dans les journaux, à la radio, je crois que ça aurait été vraiment un grand centre d'intérêt médiatique. Parce qu'au fond, il faut citer une date qui est très peu connue, c'est le 24 août 394 de notre ère. Bah, c'est une date pour moi très émouvante, puisque c'est à ce moment-là que le dernier prêtre égyptien sur le temple de Philae a gravé les derniers hiéroglyphes.
Et voilà.
Et après, le voile s'étend. Alors, moi, je suis persuadé.
C'est-à-dire qu'ensuite, pendant 13-14 siècles, ouais, plus personne ne sait à quoi correspondent ces dessins.
Il y a certainement une tradition orale, mais ça, elle est absolument.
Elle se perd dans la nuit des temps, comme on dit.
Et puis, effectivement, et même aller en Égypte est un problème. Les premiers grands voyageurs, peut-être le 15e, le 16e arrive. Et puis, il va y avoir cette publication d'un ouvrage assez étrange, d'un dénommé Horapollon, qui appelle ça les Hiéroglyphica, et qui va être une sorte de best-seller à partir du XVIe siècle, et où il y a des choses intéressantes, parce qu'il dit tel hiéroglyphe, il prend par exemple le vautour, il dit c'est le symbole de la mer. Et en effet, bon, pour les hiéroglyphisants, le vautour moute la mer, mais ça, on ne le sait pas. Et alors, le grand problème, la grosse bagarre au fond, c'est est-ce que les hiéroglyphes, ce sont des symboles, est-ce que ce sont des idéogrammes, ou est-ce que ce sont des sons?
Et voilà.
Et si ce sont des sons, est-ce qu'il y a un alphabet? Est-ce que c'est un son? Est-ce que c'est autre chose? Et la grande bagarre va se faire
sur la nature même du hiéroglyphe. Voilà. C'est ça la grande question qu'on se pose finalement, Florence Gombert.
Oui, je crois que là où tout égyptologue qui commence à apprendre les hiéroglyphes trouve François Champollion génial, c'est qu'il y a une mixité telle dans la langue égyptienne.
Voilà, tout ça est mêlé en fait.
Qu'il fallait vraiment se dire qu'on rentrait dans plusieurs cadres d'interprétation. C'est-à-dire qu'un même signe pouvait être un son, pouvait être une idée mise en image, ou la chose elle-même mise en image, l'idéogramme, ou bien un signe qui permettait de ranger les mots dans un registre de sens qu'on appelle aujourd'hui des déterminatifs, c'est-à-dire un signe qu'on ne lit pas qui permet...
Qui est juste une indication muette, en
quelque sorte. Qui est une indication muette, voilà.
Donc arriver à comprendre ça, c'est comme si on avait volontairement rendu un code secret indéchiffrable, en quelque sorte. C'est très difficile.
Oui, non mais je crois que ce qui vient d'être dit est complètement exact. Moi c'est pareil, quand j'ai commencé à déchiffrer les hiéroglyphes avec mes professeurs, je me suis dit mais comment a-t-il fait quoi? Parce qu'on nous explique ça, ça a l'air, c'est bien pas si simple que ça, mais quand vous avez des hiéroglyphes qui se lisent, d'autres qui se lisent pas, d'autres qui valent un son, d'autres qui valent deux sons. Mais il y a un système de pensée qui est... Moi, cette écriture est extraordinaire. Je dois dire que quand on la pratique, moi, je prends même des notes en hiéroglyphe parce que c'est très synthétique, en plus, très intéressant. Mais arriver à percevoir la clé, c'est extraordinaire.
Oui, alors, et donc, avec ce débat entre savants sur la nature de ce que sont les hiéroglyphes, alors évidemment, comme toujours, on est habitué à ce micro, c'est devenu quasiment un leitmotiv, les Anglais disent, mais pas du tout, Champollion n'est pas le découvreur des hiéroglyphes.
Bah, évidemment, c'est Thomas Young. Là, mais d'ailleurs, il y a encore, bon, on va pas exagérer, mais enfin, il y a quelques collègues anglais qui disent oui, mais enfin, quand même, c'est vrai, et Champollion lui-même l'a reconnu. Il avait la dent dure, Champollion, contre ses concurrents, parce qu'il voulait y arriver. C'était tout le sens de sa vie. Bon. Et Jung, en effet, n'a pas compris le système. Il a pu voir quelques lettres. Et Champollion, il faut le rappeler, c'est ce 18 septembre 1822, c'est extraordinaire ce qui se passe.
C'est le jour de la révélation.
C'est le grand jour. Il va voir Jacques Joseph. Ça y est, il a compris. Le matin, il vient de comprendre. En déchiffrant d'ailleurs les cartouches de Ramsès, c'est extraordinaire. Il vient de comprendre. Ça y est, tout rentre dans sa tête.
Il y a cette phrase, il dit « je tiens l'affaire ».
Et il tombe dans le coma.
C'est un coma, c'est une catalepsie en fait.
Alors,
trois
jours selon les analystes. Et vous imaginez Jacques Joseph qui se dit... Et s'il ne se réveille pas, parce que lui, il a compris, mais moi, je ne sais toujours pas, et personne ne saura. Donc, est-ce que c'est le bout du chemin? Est-ce que toute cette vie a été ça pour...
Plan dramatique, c'est extraordinaire,
c'est
parce que la personne qui vient enfin de découvrir n'est plus là, ne perd connaissance et ne peut plus en parler. Ça fait partie de la grande légende.
Oui. Ça fait partie de la grande légende. Jean-François Champollion, comme beaucoup de grands hommes, a presque une hagiographie écrite après coup par les personnes de sa descendance, souvent Aimé, qui était le fils de son grand frère, a parfois remis les choses au point. Concernant effectivement l'évanouissement de Jean-François Champollion, plusieurs sources s'affrontent sur le sujet. De même que on a écrit son hagiographie en disant qu'il avait appris à écrire dans le missel de sa mère, ce qui n'a pas de source complètement avérée, loin s'en faut. Voilà, donc effectivement, entre la légende et la réalité, il a suscité tellement de...
Mais parfois la légende permet de cerner les personnalités, et en l'occurrence c'est le cas. Donc ce 18 septembre 1822, hein, c'est bien ça. Il va mettre tout ça par écrit, ça sera la lettre à Monsieur Dacier.
14 septembre 1822.
Cette lettre à Monsieur Dacier est fondamentale, parce que c'est elle qui...
Alors cette lettre permet de fixer l'alphabet hiéroglyphique, permet de fixer le fait que enfin, parce qu'il s'était quand même égaré, hein, il faut dire Jean-François Champollion dans ses premières recherches, il va enfin comprendre que l'écriture hiéroglyphique est fortement quand même phonétique, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup l'utilisation des sons, ce qui était l'intuition de Thomas Young et qui était la raison pour laquelle il disait mais c'est moi qui suis à l'origine.
Alors vous vous dites il est déjà nous sommes déjà à la moitié de l'émission et on a fini puisqu'il a découvert puisque Champollion sait maintenant lire les hiéroglyphes. Mais justement, c'est maintenant que tout commence car d'un seul coup, c'est un pays entier, c'est une civilisation entière qui s'ouvre à la connaissance.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Au cœur de l'histoire de Champollion, l'Égyptien, avec vous, Franck Ferrand et vos invités, Christian Jacques, égyptologue et romancier, Florence Gombert, conservatrice au département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre.
On imagine que la célébrité de Champollion a été à la mesure de l'importance de sa découverte, Christian Jacques.
Oh, alors là, je dirais oui et non. Oui et non. Parce que il a eu à se battre contre un très grand nombre de savants. D'abord, sa découverte n'a pas été du tout reconnue tout de suite. Personne n'a sauté au plafond. Il y en a qui ont dit, mais c'est du délire, c'est pas ça du tout. Alors, il y a la fameuse anecdote où quand il s'est présenté à l'académie de contre Monsieur Pardessus, bon, il m'a dit, on m'a encore mis par-dessous Monsieur Pardessus. Bon, il a fini par y rentrer, hein, mais il a été plusieurs fois refusé. Non, sa vie a été très difficile. Sa vie a été très difficile. Le succès, il l'a connu, je dirais, très tardivement. Évidemment, il a été professeur au Collège de France, mais comme il était déjà malade, il a donné très peu de cours. Il a créé le musée, j'allais dire la section égyptologique du musée du Louvre. Difficile au début, hein, difficile sans solde. Après, c'est venu après. Il y a des pages d'ailleurs très drôles où il raconte à quoi il s'affronte. Quoi. Il n'arrive pas à trouver le nécessaire. Non, c'est un homme. L'anecdote justement sur ce moment où il vient l'affaire, il a dit une phrase qui est très belle, moi qui me touche beaucoup. C'est l'enthousiasme et la vraie vie. Oui. Et Champollion, c'est ça.
L'enthousiasme et la vraie vie.
C'est un passionné, Champollion.
Mais c'est un passionné. Et en plus, comme toutes ces personnes qui ont, une mécanique intellectuelle, là, c'est même plus que ça, qui ont un entendement, comme on disait jadis, supérieur. Évidemment, il est facilement impatienté par la lourdeur des choses, par le retard des autres. Et donc, ça n'est pas quelqu'un de forcément très facile, ni de très aimable. Et il va avoir grand besoin de cette espèce de guide qu'est son frère pour arrondir un peu les angles et pour lui permettre d'avancer. Comment est-il arrivé au Louvre? Alors ça, il faut raconter ça, Florence Gombert. En fait, on est sous la Restauration, hein, bien entendu. Le duc de Blacas, qui a été longtemps l'aide de camp de Louis XVIII, qui est un grand personnage du régime, va le présenter à la cour et on est au moment où Charles X crée son musée. Alors, 9 salles au musée du Louvre.
Oui, alors en réalité tout se prépare alors que Jean-François Champollion a été envoyé en Italie et il y avait été envoyé justement par le duc de Blacas pour étudier la collection de Turin, la première collection d'Orvetti qui avait échappé à l'État français, qui n'en voyait pas à cette époque-là l'intérêt. Et c'est là qu'il avait appliqué pour la première fois, Jean-François Champollion, le principe de la traduction des hiéroglyphes. Et donc, c'est là qu'il avait découvert tout l'intérêt de mettre en scène des monuments égyptiens aussi dans les musées. Et donc, c'est son frère qui a beaucoup travaillé, disons, les personnes importantes à Paris pour pouvoir, lui, avoir ce poste de conservateur au musée du Louvre, alors que lui-même était encore en Italie et qu'il avait eu aussi pour mission d'étudier la toute nouvelle collection qui venait d'arriver en Italie, la collection du consul Soult, qui sera acquise par le musée du Louvre, grâce à Jean-François Champollion.
C'est ça. Et donc Champollion va jouer un rôle, on l'a vu comme découvreur de hiéroglyphes, on va voir tout à l'heure qu'il ira enfin lui-même en Égypte, mais il va mettre du temps à partir. Hein. C'est-à-dire qu'on imagine toujours Champollion comme passant sa vie en Égypte, c'est pas ça du tout l'histoire. Et il est aussi, ne l'oublions pas, un grand muséologue, hein. C'est C'est-à-dire qu'il va faire avancer la science des musées.
Alors oui, je crois qu'aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes au département des antiquités égyptiennes, encore sur le chemin de Champollion, puisqu'il avait classé les collections en fonction de leur vocation, c'est-à-dire de leur fonction au sein de la civilisation égyptienne, qu'elle soit civile, religieuse ou funéraire. Il avait donc non pas classé les objets suivant leur style ou leurs matériaux, comme l'aurait fait un ignorant finalement, hein, puisque quand on ne sait rien et qu'on ne comprend pas, on range...
cherche les ressemblances.
Voilà, on cherche les ressemblances et puis on range selon le critère le plus simple et le plus commun. Là, comme il avait déjà une compréhension des objets grâce à la collection de Rovetti qui lui avait permis déjà de réfléchir à comment il faudrait mettre en valeur des collections, il a appliqué immédiatement dans les salles du Louvre ces principes. Et il a poussé jusqu'à choisir des socles de couleurs différentes pour que la pédagogie des objets soit claire. Les objets sur un socle noir étant liés au funéraire, les objets sur un socle jaune étant liés au dieu et au sacré, le monde civil sur les socles plutôt verts. Vous voyez, des sujets qu'aujourd'hui encore, comme conservateurs, nous abordons. Hein. Doit-on changer de couleur pour exprimer et aider le visiteur à comprendre qu'il a changé de registre? Voilà.
Lorsque vous apprenez l'égyptologie, on vous fait encore lire les textes de Champollion? Est-ce qu'il fait encore partie de la formation des jeunes conservateurs aujourd'hui?
Je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut ignorer ce qu'il a fait. Et souvent, quand on reprend, je dirais pas qu'on reprend systématiquement ce qu'il a fait pour faire de l'égyptologie aujourd'hui. Mais tout égyptologue a une curiosité envers Champollion. Et quand on reprend ce qu'il a dessiné ou écrit, eh bien, souvent on retrouve des idées fraîches qu'on n'a pas eues sur la couleur. Par exemple, on parle beaucoup de son goût pour les hiéroglyphes et de sa manière personnelle de traduire, grâce à son esprit formé aux langues orientales. Mais il avait aussi une grande sensibilité à l'art, une grande sensibilité aux formes, une grande sensibilité à la couleur. Quand il écrira son Panthéon, hein, donc qui peut être critiqué, hein, là pour le coup, sur certaines attributions, mais qui malgré tout reste tout à fait intéressant. Son Panthéon, donc avec des images très claires de chaque dieu, il voulait créer et montrer qu'il y avait un Panthéon égyptien à retracer. Eh bien, il sera très soucieux des couleurs appliquées. Et quand il ira en Égypte, hein, eh bien, on aura aussi un vrai souci du détail et du dessin. Et je crois que ce chemin-là, il n'a pas fini d'être creusé par les égyptologues.
Alors, nous allons y aller en Égypte sur les traces de Jean-François Champollion. Je rappelle simplement avant cela que la notice descriptive des monuments égyptiens du musée Charles X, dans une édition établie par Sylvie Guichard, vient d'être publié, réédité, on peut dire, par le Louvre en coédition avec les éditions Khéops. Christian Jacques, il a attendu avant de partir pour l'Égypte, ça a été le couronnement de sa vie et de sa carrière.
Personnellement, je le crois. Je le crois parce que il disait aussi cette phrase magnifique, l'Égypte est tout pour moi, je suis tout pour elle. Bon, ce qui remue quand même beaucoup. Et évidemment, il l'a tellement étudié, il a tellement écrit, il a tellement cherché, et enfin, il va pouvoir partir. Enfin.
Ce que vous nous dites, c'est, je trouve que c'est assez juste, j'avais toujours eu cette intuition sans jamais la formaliser, c'est que Champollion, même par ses traits de physionomie, hein, par son aspect, a quelque chose d'égyptien.
On l'appelait l'égyptien.
Oui, hein, c'est ça.
Et ça, c'est très étrange dans les descriptions du personnage. En plus, il adorait la chaleur. Bon, là-bas, quand il a fait ce voyage, c'est finalement juillet 1828, septembre 1829.
Oui, voilà. Donc ça dure à peine plus d'un an. C'est cette année-là qui fait l'essentiel hein, de votre roman, oui. Du reste. Et nous allons suivre, si vous le voulez bien, dans un instant, Champollion, dans cette découverte qu'il a faite de ce pays qui, pour lui, était tout.
On écoutait Alexandre Luigini avec le ballet égyptien.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Avec le récit de Champollion l'Égyptien, Franck.
de l'été 1828 à l'automne 1829, Champollion va donc faire, j'allais dire à son tour, la découverte d'une Égypte qu'il connaît mieux que personne, mais qui jusqu'alors n'a été pour lui qu'une Égypte de livres, une Égypte de papier. Et là, il la découvre. Alors, il faut dire qu'il est déjà malade. C'est un homme faible, qui tousse. Il faut parfois, sur certains trajets, il faut le porter. Il a de temps en temps la fièvre. Il n'est pas bien portant lorsqu'il arrive en Égypte, Champollion. Mais alors, quelle découverte, évidemment. Vous imaginez l'émotion qu'a dû être celle de cet homme qui avait consacré sa vie à une civilisation, à, j'allais dire, à des couleurs, à une lumière qu'il découvre enfin, qu'il voit de ses yeux. Il faut l'imaginer sur cette felouque qui remonte le Nil et qui lui offre comme un rêve éveillé. C'est un bonheur absolu pour lui et en plus, c'est un véritable triomphe. Il est connu. Alors tout à l'heure, Christian Jacques nous disait que sa célébrité n'a pas été sans mal, mais néanmoins, quelle renommée, et notamment sur place, les fellahs l'acclament, il lit pour les tout premiers touristes. On est à l'époque de l'invention du tourisme par les Britanniques, du reste. Il lit à livre ouvert sur les temples, vous imaginez. Alors avec, évidemment, tout ce que cela suppose comme réattribution, comme réinterprétation. C'est très important d'ailleurs, le rôle de Champollion dans la classification et dans l'attribution des monuments d'Égypte. Ça fait partie de ses grands apports. Et puis, il arrive bien sûr dans le Saint des Saints. Il arrive à Karnak. Et voilà ce qu'écrit Christian Jacques. Et il le fait parler, Champollion, hein, l'ouvrage est écrit à la première personne. « Ivre de ma victoire, j'osais enfin accomplir le dernier pas qui me séparait du cœur de Thèbes, Karnak, le palais d'Amon-Ra, le maître des dieux. Karnak, la Thèbes aux 100 portes qui, pendant de nombreux siècles, avait régné sur le monde. Que me réservait-elle? Quand restait-il après les destructions effectuées par les Assyriens, les Chrétiens et les Arabes? Incapable de patienter plus longtemps, je marchais à pas rapides sous le soleil. Un ânier me proposa un secours que j'acceptai de bon cœur, et la distance fut vite franchie. Lorsqu'il m'annonça fièrement « Al-Karnak », je tressaillis. Allais-je connaître la plus grande joie ou la plus grande déception de mon existence? Karnak. Là m'apparut toute la magnificence pharaonique, tout ce que les hommes ont imaginé et exécuté de plus grand. Tout ce que j'avais vu à Thèbes me parut misérable en comparaison des conceptions gigantesques dont j'étais entouré. Je me garderai bien de vouloir rien décrire, car ou mes expressions ne vaudraient que la millième partie de ce qu'on doit dire en parlant de tels objets, ou bien si j'en traçais une faible esquisse, même fort décolorée, on me prendrait pour un enthousiaste, peut-être même pour un fou. Il suffira d'ajouter qu'aucun peuple ancien ni moderne n'a conçu l'art de l'architecture sur une échelle aussi sublime, aussi large, aussi grandiose que le firent les vieux Égyptiens. Ils concevaient en homme de 100 pieds de haut et nous en avons tout au plus 5 pieds 8 pouces. L'imagination qui, en Europe, s'élance bien au-dessus de nos portiques, s'arrête et tombe impuissante face aux 140 colonnes de la salle hypostyle de Karnak, forêt de fleurs géantes, monde au-delà de l'humain qu'éclaire une lumière céleste filtrée par des fenêtres de pierre. Évidemment, il faudrait, et je m'en veux, de refermer l'ouvrage de Christian Jacques, parce que c'est ce souffle, hein, c'est le sens même du terme enthousiasme, le souffle des dieux, est à chaque page de ce roman, et on suit littéralement Champollion dans ce qui d'abord a été une découverte, dans ce qui ensuite est un déchiffrement, dans ce qui finalement devient un parcours initiatique, disons-le. Alors, de retour, Champollion héritera la chaire d'égyptologie au Collège de France, où il n'aura somme toute le temps que de donner quelques leçons en 1831. Il est très atteint par la tuberculose, aggravé par un diabète et surtout rendu pénible par la goutte qui va littéralement rendre si pénible les derniers mois de sa vie. Le 27 janvier 1832, il sait qu'il a encore énormément à livrer. Il n'a donné qu'une part de son œuvre, en quelque sorte. « Mon Dieu, dit-il, donnez-moi encore 2 ans, pourquoi pas ?» Ah, l'entend-on dire, on est vraiment à la fin de sa vie, là. Il se frappe le front, il dit « Trop tôt, il y a encore tant de choses là-dedans » Le 29 janvier 1832, la paralysie est générale. Cette fois, il ne peut plus parler. On se rappelle d'ailleurs la catalepsie qui avait d'abord accueilli la découverte en 1822. Il ne peut plus parler, mais il peut encore regarder. Son regard, nous dit un témoin, semblait chercher de l'aide et brûlait comme un fer rouge l'âme de ceux qui l'entouraient. Ça va durer comme ça, c'est très dur aussi pour son entourage, bien entendu. Et le 3 mars, il recouvre la parole. On lui donne l'extrême onction. Il profite de ses quelques faibles mots pour adresser ses adieux à sa femme, Zoraïde, à son frère. Il regarde les objets de sa collection et il s'éteint. Rappelez-vous qu'il n'a que 41 ans. Il s'éteint encore plein d'enthousiasme. Christian Jacques nous le disait tout à l'heure. Il avait cette phrase dont on pourrait presque faire une devise. L'enthousiasme seul est la vraie vie.
Avec le thème du Pharaon, musique extraite du film animé La Reine Soleil, sorti en 2007. C'est une libre adaptation du roman de Christian Jacques, La Reine Soleil.
Dans mon propre enthousiasme, à l'instant, je viens de dire que Zoraïde était, j'ai dit, la femme de Jean-Paul Lyon. Et c'est sa fille qu'il fallait entendre. Alors, ce voyage, on peut dire, Christian Jacques, a été pour Jean-Paul Lyon un ravissement, mais il a été pour l'égyptologie un voyage important aussi. C'est ce qu'on a parfois tendance à négliger un peu.
Ah, oui, parce que d'abord, il a, comme vous le disiez tout à l'heure, identifié, découvert des monuments. Oh, il y a une anecdote merveilleuse, c'est quand il est au tombeau de Beni Hassan, qui est un site admirable en Moyenne-Égypte. On croit d'abord qu'il n'y a rien dans les tombeaux parce qu'ils sont très, très salis par la fumée, etc. Et alors, il prend... Alors, je sais bien que l'archéologue qui est en face de moi ne va pas être tout à fait d'accord, mais Champollion a pris une éponge miracle et il a nettoyé et tout à coup, lui sont apparus. Alors, Beni Hassan, ce sont des tombeaux magnifiques parce que vous avez des scènes de la vie quotidienne, des scènes militaires, des jeux, etc. Et là, voilà, par exemple, ça c'est du Champollion pur sucre, c'est-à-dire qu'il devait rester un jour à Beni Hassan et puis il y a passé de très 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 longues heures et ses collègues de l'expédition disaient reviens, mais non, j'ai pas le temps, je veux encore rester là. Vous voyez, c'est ça Champollion.
Je ne peux pas m'empêcher à propos de ce Champollion l'Égyptien que vous nous décrivez de songer à un autre aventurier de la même époque, c'est René Caillé qui se trouvait à Tombouctou et qui va peu à peu prendre l'apparence et se couler dans les coutumes locales. Champollion devient plus égyptien que les Égyptiens, en quelque sorte, Florence Gombert.
Il adoptera le costume égyptien. On se moquera d'ailleurs de lui certaines fois. Quand il reviendra à Alexandrie, on lui reprochera de s'être fait peindre et représenter avec le costume bédouin. Mais il faut bien considérer que le costume occidental de l'époque n'était pas du tout approprié à la vie en Égypte.
Il fallait aussi s'adapter à la chaleur et au soleil, bien entendu. Quelle a été, à partir de là, la postérité de Champollion ? Eh bien, c'est ce que nous voyons dans les quelques minutes qui nous restent.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
De Champollion l'Égyptien, cet après-midi, avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Florence Gombert, conservatrice au département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre, et Christian Jacques, égyptologue et romancier, auteur de nombreux ouvrages sur l'Égypte ancienne, et notamment de Champollion l'Égyptien.
Il est important, Christian Jacques, de souligner la dimension pédagogique de ce Champollion. Il a non seulement déchiffré les hiéroglyphes, mais il a ouvert la voie à une pédagogie de l'Égypte, en quelque sorte. Il a essayé de faire comprendre cette civilisation tellement complexe et tellement différente à ses contemporains.
Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, sur son lit de mort, pratiquement, il disait encore « J'espère que ma grammaire sera ma carte de visite pour la postérité ». Et en effet, c'est d'ailleurs bien après sa mort qu'on a publié un certain nombre de ses travaux qui, d'une certaine manière, restent essentiels puisque, au fond, on peut dire, tous les égyptologues vont dire Saint Champollion, puisque nous sommes tous ses descendants. D'ailleurs, sans lui, on ne serait pas là. Je ne suis pas sûr non plus qu'il resterait beaucoup de monuments égyptiens sans lui, parce que pendant ce voyage, il s'est quand même un peu opposé au Pacha Mehemet Ali, qui lui voulait faire plutôt démonter un peu tout ça pour faire des quais, des fabriques, etc. Il a été d'un courage physique assez étonnant. parce que ça, Champollion est un homme tout à fait extraordinaire de ce côté-là. Et puis, il a prononcé au fond une phrase qui est fondamentale pour l'avenir de l'égyptologie. Il a dit « tout est hiéroglyphe ». C'est-à-dire cet homme qui, comme on le rappelait tout à l'heure, était un excellent dessinateur, a compris que les hiéroglyphes, c'est la pensée de l'Égypte ancienne. C'est ce qui est à l'origine de toutes les créations de l'Égypte ancienne. Donc quand on voit, on dit par exemple, les grandes pyramides de Gizeh sont un épigraphe. Il n'y a pas d'inscription, ce qui est apparemment vrai. Mais la pyramide elle-même est un hiéroglyphe. En elle-même, elle est une inscription. Et ça, Champollion l'a parfaitement compris. Et les égyptologues d'aujourd'hui peuvent encore exploiter toutes ces découvertes-là aussi.
Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, l'ampleur des vues du personnage lui permet de rester actuel et de demeurer aujourd'hui un aiguillon pour la recherche et pour l'enthousiasme.
Ah, pour moi, totalement, puisque même si nous déchiffrons à peu près correctement les hiéroglyphes aujourd'hui, il y a encore des inscriptions qui résistent, mais Champollion nous a parlé de différents niveaux d'interprétation. Et là, on n'a pas encore été tout à fait au bout de sa pensée et de ce qu'il a découvert. On est devant, pour moi, une sorte de Mozart. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est assez étrange, puisque quand Mozart meurt, Champollion naît pratiquement. C'est très étrange. Mozart, qui était très important avec sa flûte enchantée, avec la préparation, disons, du climat autour de la découverte de l'Égypte. Et Champollion est un visionnaire. Oui, vous parliez tout à l'heure de prédestiné. Je crois que c'est un mot tout à fait juste.
Alors, vous parlez d'un climat. Ce qui me frappe relativement, c'est que on a eu, évidemment, après la grande expédition de Bonaparte, ce mouvement retour d'Égypte qui a complètement qui a joué un rôle très important dans les arts décoratifs, notamment, et même d'une façon plus générale dans la littérature, par exemple. On a eu en Angleterre une espèce d'égyptomanie galopante à la même époque, dans ces années 1820, 30, 40. On a l'impression qu'en France, n'était évidemment le roman de la momie de Théophile Gautier ou quelques éléments de ce genre, et malgré l'ouverture des fameuses salles du musée Charles X du Louvre, on a l'impression que l'égyptomanie prend moins. C'est assez étrange ça, Florence Gombert.
On a sans doute aussi des événements politiques qui ne permettent pas de recevoir à sa juste valeur toutes les découvertes que l'on a faites. Et je crois que effectivement, il restait encore d'ailleurs des petits points de résistance, même au principe de Jean-François Champollion, parce que l'ignorance, tout simplement, faisait obstacle encore à la compréhension. Il avait ouvert complètement la pensée, les yeux de l'Europe sur la civilisation égyptienne. C'est-à-dire que toute une science était en train de se bâtir. On connaissait la Grèce, on connaissait Rome, et puis finalement on ne connaissait pas l'Égypte antique. C'est tout à fait une révolution dans la science.
Je serais tenté de dire qu'il faudrait le même type de révolution maintenant pour la Mésopotamie, car Dieu sait que même si depuis évidemment une soixantaine d'années on étudie, on publie sur le pays des deux fleuves, il n'a pas du tout encore acquis dans le grand public la notoriété et l'importance de la civilisation égyptienne. C'est le moins qu'on puisse dire même.
À mon avis, cela tient aussi au fait que le territoire aussi, d'abord c'est plus, moins monumental, aujourd'hui moins touristique malheureusement.
Oui, et pour cause.
Mais c'est aussi le plus morcelé, c'est-à-dire que l'histoire politique et religieuse est quand même plus complexe à cerner. Nous avons des textes en Mésopotamie qui sont effectivement traduits, conservés, mais on n'a pas une grande histoire de 4000 ans comme on a en Égypte, qu'on peut retracer à travers les hiéroglyphes et les monuments conservés.
Mais enfin, je suis toujours étonné par les angles morts, si je puis dire, oui, et les zones d'ombre de l'histoire antique. Je pense à la civilisation minoenne, notamment, aux Crétois, dont on ne parle jamais, et Dieu sait pourtant que c'est très passionnant et très riche. Mais enfin, c'est une parenthèse que j'ouvrais, simplement. Alors, pour revenir à l'égyptologie, ce qui est fascinant, c'est, alors il y a eu quand même l'arrivée de l'obélisque de Louxor sur la place de la Concorde quand même, ça c'est le grand événement de la monarchie de Juillet, donc il y a eu quand même des événements, il y a eu des enthousiasmes, bien sûr. Champollion était mort, il ne l'aura pas connu ça.
Non, mais il en est l'auteur, il en est en tout cas l'inspirateur, parce que quand il s'est retrouvé devant les deux obélisques du temple de Louxor, il en reste un bien sûr, il a craint une destruction, parce parce qu'il a quand même vu au cours de son voyage des monuments qu'il a vus en passant, et puis quand il y a repassé, il n'était plus là, le monument. Donc il a eu très peur de ça, et effectivement, il a négocié en quelque sorte le déménagement de cet obélisque, mais il ne l'a pas vu. Oui.
Alors cet extraordinaire parcours de Champollion, pour le retrouver, il faut aller au Louvre. Je crois que c'est quand même le parcours obligé. Où trouve-t-on des traces de Champollion ailleurs qu'au Louvre, Christian Jacques?
Des traces de Champollion ailleurs qu'au Louvre.
À Figeac, peut-être, tout
de
même.
Il y a un musée à Figeac, oui. En effet, un musée Champollion. C'est pas moi du tout qui l'ai créé, mais le succès du livre à l'époque a fait qu'on
oui,
a pensé à enfin faire quelque chose autour de lui. Donc il y a ce musée Champollion. Et puis je vous dirais presque que tous les temples que vous pouvez visiter en Égypte aujourd'hui, ce sont les enfants de Champollion. Enfin, en grande partie grâce à ce voyage, grâce à la notoriété qu'il leur a donnée, un certain nombre de destructions se sont arrêtées tout de même. Mmh. Et même si, comme disaient mes illustres grands professeurs, Jean Yoyot disait « Ah, mais l'Égypte, il nous reste si peu de choses ». Oui, c'est vrai qu'il reste... Il y a eu beaucoup de destructions, notamment dans le Delta. Mais tout de même. Quand on revient encore à Karnak, je peux vous dire qu'on ressent exactement encore la même émotion que celle de Champollion.
Alors, juste un mot, parce qu'il nous reste une minute, vous voyez, mais un mot sur la situation actuelle en Égypte. On adorerait aller en Égypte, on a un peu peur, forcément, Florence Gombert. J'imagine que dans le monde des égyptologues, on se pose des questions. Vous êtes en relation, vous, avec l'école française du Caire, etc. Vous...
Alors, pour le moment, nous maintenons nos chantiers de fouilles en Égypte et nous espérons que très vite, le pays pourra effectivement à nouveau compter sur les touristes. Mais effectivement, nous ne sommes pas dans le meilleur contexte et ces derniers jours sont encore plus complexes, je dirais, pour nous permettre d'envisager l'avenir de manière tout à fait limpide. Donc, l'avenir de l'Égypte se dessine encore sous nos yeux.
Et Dieu sait qu'il y a encore là-bas des choses extraordinaires à découvrir, bien entendu. Merci beaucoup à tous les deux. Christian Jacques, Champollion, l'Égyptien, un ouvrage désormais célèbre, mais qui est réédité avec une édition donc entièrement revue, augmentée. C'est publié chez J-Édition. Merci Christian Jacques.
Merci beaucoup.